Merci Alexandra Dubouchereau et à tout à l'heure.
Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois John Palais. Bonjour John Palais.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
John Palais, vous êtes activiste, militant écologiste, cofondateur d'Alternatiba et d'ANV, Action Non Violente COP21. Vous êtes de ceux qui réquisitionnent des chaises dans les banques qui participent à l'évasion fiscale. On a pas mal entendu parler de vous ces derniers temps. Vous êtes de ceux aussi qui décrochent les portraits du président Emmanuel Macron pour dénoncer le vide de sa politique écologique. Enfin, vous dédiez votre vie à la sauvegarde de la planète. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça? On peut vous définir comme ça? Vous êtes avec votre sac
oui,
à dos.
Oui, c'est ce qui occupe l'énorme, oui, pratiquement tout mon temps depuis que j'ai 26 ans.
Depuis que vous avez. Et là, vous avez quel âge?
J'ai 40 ans.
Ouais. Vous avez une maison? Parce que là, vous êtes arrivé avec votre sac à dos.
Oui, j'habite aussi dans une maison avec ma compagne. Et on passe quand même beaucoup de temps dans les trains avec son sac à dos. Aller chez les autres.
John Palais, vous avez choisi comme journée particulière ce jour de juillet 2006, quand vous avez une sorte de révélation en regardant le film Gandhi de Richard Attenborough.
Quoi qu'il nous fasse, nous n'attaquerons personne. Nous ne tuerons personne. Mais nous ne donnerons pas nos empreintes. Personne n'acceptera de le faire. Ils nous mettront en prison, ils nous feront payer des amendes, ils saisiront nos biens. Mais ce qu'ils ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité. Nous ne donnerons pas un seul coup. Mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice. Notre souffrance, la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas. Ils me tortureront, me frapperont. Ils briseront mes membres. Ils me tueront peut-être. Alors, c'est mon cadavre qui leur appartiendra. Et non pas mon obéissance.
John Palais, pourquoi ce film Gandhi a eu un tel impact sur vous ?
Toute la vie de Gandhi, tout le combat de Gandhi, c'est ce qui m'a fait comprendre la logique de l'action non-violente. C'est loin d'être évident. La non-violence, on peut facilement imaginer que c'est l'absence de violence, une certaine forme de passivité, voire dans les méprises les plus importantes, une forme de lâcheté. Et le combat de Gandhi montre complètement autre chose. Il a montré en quoi l'action non-violente, c'était au contraire une manière de lutter, de manière active, une manière de poser des conflits, une manière de tenir compte des rapports de force, de lutter contre les mécanismes de domination, d'oppression, de lutter réellement. Et ce qui m'a le plus touché, c'est la place qu'occupe la force de la conscience dans ce mode de lutte. En agissant en conscience, avec sincérité, et en traduisant nos convictions de cette manière-là, on peut toucher la conscience même de nos adversaires les plus hostiles à notre égard. Gandhi, il appelait ça en réalité le satyagraha, ce qui signifie la force de l'âme ou la force de la vérité. Et pour lui, bien sûr, c'est partir de ce qu'il considère être juste, mais son instrument, ça va être la sincérité,
c'est vrai.
L'authenticité, et c'est ça qui lui garantit en quelque sorte le fait d'être toujours sur le bon chemin, si on peut dire ça comme ça.
Et c'est pour ça que vous parlez d'une révélation quand vous voyez ce film Gandhi, qui a d'ailleurs reçu le César du meilleur film au début des années 80. C'est une sorte de révélation que vous avez. Parce que qu'est-ce qu'on y voit dans ce film, justement? C'est Gandhi se faire taper dessus. On voit des Indiens se faire tuer et s'allonger. On va les fusiller. On voit des gens résister à la violence des autres. On comprend mieux, effectivement, ce que ça peut être la non-violence et le danger de la non-violence face à la violence.
Sachant que la non-violence, ça n'est pas le sacrifice. Il y a effectivement cette scène où une scène de massacre.
Ouais.
Mais on ne recherche pas le sacrifice par la non-violence. Même si on prend le risque d'être blessé et, dans des cas extrêmes, comme c'était le cas pour Gandhi, d'être tué. On prend le risque, mais c'est absolument pas notre objectif.
Alors, il se trouve que ce même quelques mois après que vous ayez vu ce film Gandhi, en l'été 2006, vous décidez de devenir un militant de Greenpeace. C'est à peu près concomitant pour vous.
C'est concomitant. En réalité, j'habite à Bordeaux à cette époque.
Ouais.
Je croise dans la grande rue piétonne Sainte-Catherine un recruteur de Greenpeace. Et j'adhère à Greenpeace à ce moment-là en me disant que ça fait bien longtemps que j'aurais dû le faire.
Mm-hmm.
Et c'est un moment, c'est une époque de ma vie où je suis revenu vivre en ville. Je suis très malheureux, en fait, de me sentir contraint de revenir en ville. Et du coup, j'ai beaucoup de colère contre le système, les activités humaines qui détruisent la nature, que j'ai beaucoup de mal à canaliser. Et c'est dans cet état d'esprit que j'adhère à Greenpeace, en me disant, je vais pas juste adhérer à Greenpeace, je vais m'impliquer et devenir un militant de Greenpeace. Sachant que pour moi, je connais pas du tout les associations à ce moment-là, mais tout le monde connaît Greenpeace, donc j'ai une image, l'image publique de Greenpeace, qui justement est cette image d'interposition.
Oui.
Et d'engagement très fort, c'est-à-dire des personnes qui vont sur des lieux où on détruit la nature et s'interposent physiquement. Et pour moi, c'est la seule réaction qui fait sens par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que j'ai toujours ressenti. Mais pendant l'été, il n'y a pas de réunion du groupe local de Greenpeace, donc je vais m'impliquer à Greenpeace qu'à la rentrée. Et entre-temps, mais par hasard, je regarde le film de Gandhi.
Voilà, et donc c'est le début de votre engagement, John Paley.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la ré de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui sauterre dans le tiède de tes reins? Le beurre ou l'argent du beurre, que tu vives ou que tu meurs. fleur change de couleur. Je vais prendre ta douleur. Je vais jouer au docteur. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que vaut la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal à où t'as peur. Tu n'as pas mal à où je chante.
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
John Palace et Camille qui chantaient en 2006 « Je veux prendre ta douleur ». Camille qui est très engagée aussi pour le climat et pour la terre. Vous la connaissez un peu ?
Juste de nom et quelques mélodies.
Et quelques mélodies. Jusqu'à 15h, donc c'est votre journée particulière, John Palais. En juillet 2006, vous découvrez le film Gandhi de Richard Attenborough et vous devenez un militant de Greenpeace. Il se trouve que quelques jours plus tard, le 26 juillet, toujours au courant de ce mois de juillet 2006, un accident nucléaire a lieu en Suède, dans la centrale de Forsmark.
En Suède, la sécurité nucléaire, objet d'un débat politique, après un incident survenu le 26 juillet dans la centrale atomique de Forsmark, à l'est du pays. Une coupure d'électricité a mis au jour une défaillance du système. La moitié des réacteurs du pays est aujourd'hui à l'arrêt.
En juillet 2006, un court-circuit plonge cette même centrale dans le noir, bloquant les instruments de contrôle et entraînant ipso facto une surchauffe du réacteur.
Bergman, tillkommande av subbens dieselgen är spänningslös.
Au moment où ils reprennent la main, les pilotes réalisent qu'ils sont passés à 7 minutes de la fusion du cœur, à 7 minutes de la catastrophe, à 7 minutes en somme d'un nouveau Tchernobyl.
John Palais, c'est un extrait du journal de France 2 du 6 août 2006. Vous vous souvenez de cet accident nucléaire ?
Oui, mais c'est quelque chose que j'ai découvert après coup.
Ben c'est ça.
Ouais. Et là, on est avant l'accident de Fukushima.
Ouais,
donc on le compare à Tchernobyl. En réalité, on est plus proche du scénario de Fukushima. Et de ce qu'on a failli connaître en France, à la centrale nucléaire de Blaye, à côté de Bordeaux, en 1999. C'est-à-dire que, partons de Fukushima, il y a ce raz-de-marée, mais c'est pas le raz-de-marée qui provoque la catastrophe nucléaire. C'est le fait que le raz-de-marée coupe l'électricité, et qu'une coupure d'électricité... Pour une centrale nucléaire, c'est dramatique parce que c'est un peu le paradoxe d'une centrale nucléaire. Elle produit de l'électricité, mais elle a besoin de l'électricité pour refroidir les réacteurs. Et si l'électricité est coupée, le réacteur, au bout d'un certain temps, va rentrer en fusion. Et c'est un processus qu'on ne sait pas maîtriser et qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce qui se passe à Fukushima, c'est-à-dire que le raz-de-marée détruit tellement d'installations qu'on n'est plus en mesure d'alimenter les réacteurs et qu'ils explosent.
John Palais, vous, en tant que militant de Greenpeace, vous avez participé à plein d'actions contre le nucléaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bloqué des trains qui transportaient des déchets nucléaires, mais vous êtes aussi introduit dans des centrales. Ça, vous l'avez fait avec Greenpeace, entre autres dans la centrale de Tricastin.
C'est ça.
C'est facile de s'introduire, de rentrer dans une centrale?
Oui, malheureusement, c'est facile. C'est un site industriel qui est entouré de clôtures, hein, de grillages, qu'on peut passer avec des échelles.
Non, mais ça, on a du mal à y croire. Avec des échelles, on peut grimper comme ça et rentrer dans une centrale nucléaire.
Oui, pour le coup, les activistes de Greenpeace l'ont fait de nombreuses fois maintenant, avec le même mode opératoire, simplement des échelles. Moi, l'action à laquelle j'ai participé, on est rentré, on s'est approché d'une très grande structure métallique qui sert à charger les piscines de combustible usagé qui sont à côté du réacteur. Et donc, on a escaladé cette structure pour y installer des banderoles. Et voilà, et effectivement. Et donc, la sécurité qui est mise en place dans les centrales et les brigades de gendarmerie spécialisées que petit à petit les autorités ont mises en place suite aux actions de Greenpeace ont un temps d'intervention qui n'est pas assez réactif parce que ce sont des sites grands et parce que ils sont pas partout à la fois. On a 19 sites nucléaires en tout en France,
ouais,
qui hébergent les 48 réacteurs nucléaires du territoire et qui ne sont pas protégée comme on pourrait s'y attendre pour des sites aussi sensibles.
Mais là, alors, une des actions pour vous les plus marquantes que vous ayez entrepris avec Greenpeace, c'était pas à propos du nucléaire, c'était au Canada, en Alberta, c'est ça, à Fort McMurray, où vous êtes rentré dans une des plus grandes mines de sable bitumineux du monde.
La forêt boréale, le plus grand réservoir terrestre de carbone. Ce trésor millénaire, l'homme le transforme en cloaque industrielle. Dans ses plaies béantes, l'objet de toutes les convoitises, du pétrole mélangé à la terre. Les sables bitumineux du Canada sont le nouvel Eldorado de l'industrie pétrolière qui multiplie les mines à ciel ouvert en toute discrétion. Impossible de filmer de plus près, chaque demande de tournage est refusée. C'est le plus vaste projet pétrolier du monde, 43 000 km² sont menacés.
Tous les arbres, la végétation, tout est rasé et emporté. Toutes les rivières alentour sont détournées, les zones humides asséchées. Puis les engins commencent à creuser la terre pour créer des mines jusqu'à 100 mètres de profondeur.
Menacées aussi les réserves d'eau. Le bitume est inexploitable en l'état. On le ramollit à la vapeur d'eau pour le séparer du sable et le transporter dans des pipelines. Il faut plus de 5 barils d'eau douce pour produire un seul baril de pétrole. Ce procédé consomme par jour autant qu'une ville de 3 millions d'habitants.
L'eau polluée est stockée dans de gigantesques lacs de rétention qui concentrent les substances chimiques dangereuses. Chaque jour, plus de 11 millions de litres d'eau toxique fuient dans l'environnement et les rivières.
La terre-mère est malade ici. Et quand elle est malade, l'eau est malade. Et les animaux sont malades. Et nous sommes malades. Ça affecte nos corps.
John Palais, c'est comment une mine de sable bitumineux ? Décrivez-moi le paysage.
Bah ça fait comme un immense cratère, un grand trou.
Ouais.
C'est un paysage lunaire où il n'y a rien, en fait, ouais. sur des distances énormes. Donc, nous, on s'y était... encore avec Greenpeace, on était rentré dans cette mine, dans ce cratère, pour bloquer le chantier.
Ouais.
Et on est arrivé au cœur de la mine, c'est-à-dire à l'endroit où une grue géante continue de creuser la terre et la verse dans des camions de chantier géants, les camions jaunes gigantesques qu'on voit sur ce genre de chantier qui sont grands comme des bâtiments, hein, rien que les roues. Nous dépasse largement. Et on y est rentré en...
Par effraction ?
Plutôt par... par diversion, on va dire, parce que sur ce genre de site, il y a donc la grosse grue, les camions géants, et ensuite, il y a une partie du personnel qui se déplace en 4x4.
Mais tellement c'est grand,
en pick-up,
la terre est
voilà.
creusée.
Oui, on roule sur du sable un peu mou. Hein, donc, on est rentré avec le même style de pick-up qu'on pouvait observer, donc pour passer au départ inaperçu. Ce qui a marché au début, et puis ce qui a fini par attirer l'attention quand même de certains conducteurs de camions qui commençaient à nous faire des signes de décrocher la radio.
Ouais.
Apparemment, ça commençait à se remarquer qu'en fait, on ne devait pas être ici. Et donc, on faisait semblant de... On répondait par des signes. Enfin, là, l'enjeu, c'était de montrer qu'il faut faire semblant d'être à l'endroit où on est censé être.
Ouais, c'est ça.
Pour gagner du temps. Et donc, on a réussi à approcher de la grue. Et puis, immédiatement, quand on descend des pick-up, on a disposé les différents pick-up pour former une ligne empêchant les camions de rentrer et de sortir de la zone d'extraction. Et on s'est bloqué à la grue, enchaîné hein, à la grue et au camion. L'objectif étant de stopper l'activité le temps du blocage.
De dénoncer parce que c'est une des industries les plus polluantes.
Elle est polluante sur toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on peut difficilement faire pire. C'est-à-dire qu'on commence par couper des très grandes forêts, bon, qui sont d'abord des réserves de biodiversité, des réserves de carbone. Donc en coupant ces forêts, on porte déjà un préjudice à la biodiversité et un préjudice à l'équilibre climatique. pour creuser ce sable, le transformer en pétrole, ce qui va être déjà très émetteur de gaz à effet de serre, toute la chaîne industrielle, très polluant puisque ça se fait avec des produits chimiques, qui se retrouvent à contaminer l'eau des zones environnantes. Et la finalité de toute cette industrie déjà très polluante, c'est d'avoir encore plus de pétrole qui continue de polluer et qui continue d'émettre des gaz à effet de serre. Donc oui, c'est monstrueux.
Vous avez pu rester enchaîné à la grue combien de temps sans être délogé?
On a bloqué tout le chantier 24 heures.
Ah, c'est beaucoup, 24 heures.
Donc on est resté toute la nuit notamment. Et mais ce qui est impressionnant, c'est d'abord la taille de ce cratère. On a dû rouler. Ça me paraissait interminable le temps qu'on roule en voiture pour s'approcher du centre du cratère. On a peut-être roulé 20 minutes.
Et c'était le cratère pendant les 20 minutes? C'était le cratère? Vous étiez déjà dans le cratère?
Dès le départ, on est dans une zone de sable bitumineux, mais plus on avance et plus on
s'enfonce.
Plus on s'enfonce, oui.
C'est un paysage de fin du monde que vous décrivez?
C'est un paysage de fin du monde, complètement. C'est-à-dire que une fois qu'on est au centre, on voit rien d'autre que cette terre à nu, creusée si profondément qu'il n'y a plus rien de vivant. Il n'y a pas un petit brin d'herbe.
Il n'y a pas une mouche, il n'y a pas un ver de terre.
La seule vie que j'ai vue à part nous, c'était un moment à la tombée du jour. J'étais sur un des camions bloqués. Et c'est complètement silencieux. Le chantier s'est complètement arrêté pour des raisons de sécurité. C'était complètement silencieux. Et il y a juste un corbeau qui est passé en poussant son cri et qui résonne dans ce grand vide. Et la seule chose qu'on détecte, c'est une petite odeur de pétrole omniprésente, parce qu'effectivement le sable est imbibé de pétrole. Et donc là, on se sent réellement sur une planète morte.
John Palais, vous avez été comme ça engagé à Greenpeace pendant plusieurs années, et puis vous avez commencé à vous interroger sur ce genre d'action à court terme et sur comment faire pour changer d'échelle, comment mobiliser les gens. Et alors là, vous vous êtes replongé dans les textes, vous avez relu les classiques, vos classiques en autodidacte. Vous avez relu David Thoreau, penseur de la désobéissance civile. Vous avez relu Gandhi et Martin Luther King.
Monsieur le pasteur, le Parlement norvégien vous a décerné le prix Nobel 1964 de la paix pour votre action en faveur de l'égalité des droits civiques aux États-Unis. Peut-on vous demander ce qui vous a décidé à devenir l'apôtre de la non-violence?
Well, I would say that my whole commitment to non-violence grows out of...
Je peux dire que mon engagement total dans la non-violence vient premièrement de mon inspiration provoquée par l'étude du Nouveau Testament en tant que chrétien. Et deuxièmement, de l'étude que j'ai faite des techniques et de la philosophie du Mahatma indien Gandhi. Et c'est ce développement conjoint qui est la cause de mon engagement dans la non-violence.
Vous écriviez autrefois dans votre prison de Birmingham la phrase suivante: « Je rends grâce à Dieu de dévoir à l'Église noire la dimension de la non-violence qui est entrée dans notre combat ». Serait-ce à dire que dans « Sans le sacerdoce », vous auriez plutôt incliné vers d'autres formes d'action?
Je dirais que mon engagement personnel est la non-violence. Et je suis sûr que je resterai personnellement ainsi engagé, quoi qu'il puisse arriver, car je suis persuadé que c'est la seule méthode pratique et valable de résoudre l'injustice raciale. Et d'autre part, je dois avouer que si les ministres de l'Église noire et la majorité des chefs du mouvement des droits civiques ne s'étaient pas engagés à la non-violence, il est possible que le mouvement ait dégénéré dans la violence et le sang.
John Palais, c'était une archive de 1964, l'année même où Martin Luther King a reçu son prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que vous a apporté cette lecture, cette relecture de Martin Luther King?
Martin Luther King, c'est un exemple très fort pour Action Non-Violente COP21, qu'on cite très régulièrement. C'est plus facile d'expliquer la pertinence de la non-violence avec l'exemple de Martin Luther King. Parce que l'objectif de Martin Luther King, il le disait dans un de ses célèbres discours, c'est la réconciliation. C'est-à-dire que c'est les enfants noirs et les enfants blancs qui vont dans les mêmes écoles en se tenant par la main. À une époque où il y avait des écoles séparées pour, et tout séparé pour les blancs et les noirs. Et il est évident que quand notre objectif est l'unité, la réconciliation, l'égalité, la fraternité, ça ne peut pas s'obtenir par la violence. Vous ne pouvez pas obtenir le respect de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, la considération de quelqu'un, en le frappant, en le faisant souffrir. Vous pouvez obtenir son obéissance, vous pouvez obtenir qu'il ait peur de vous, mais vous pouvez pas obtenir une adhésion de son esprit, de sa conscience, un sentiment de fraternité et un véritable respect de sa part envers vous. C'est des choses différentes. Ça, effectivement, ça ne peut s'obtenir que par l'action non-violente. Mais par l'action non-violente, également en ce qu'elle comporte de conflit. Parce que dans une société qui a entériné une logique de ségrégation, on ne peut pas en venir à bout juste avec des bonnes intentions et juste en respectant ses oppresseurs. Il faut désobéir à la loi, il faut créer des clivages, il faut perturber des choses, il faut poser un conflit sans que ça empêche cet échange de conscience et cette émergence du respect des uns envers les autres. Et c'est là que réside tout l'art de la non-violence. C'est comment on trouve la synthèse entre la manière de perturber les choses et la manière de toucher la conscience des gens.
John Palace, que vous saviez que James Brown a disparu en 2006, cette oui. même année où vous commencez à vous engager. Mm-hmm. Et vous aimez ?
Oui, c'est mon univers musical, tout ce qui est musique noire, musique africaine, musique afro-américaine. Et James Brown a une place très centrale dans ces genres musicaux parce qu'il lui-même a été une influence, a été un pionnier. Et a été une influence pour plein d'autres artistes pionniers. C'est une très forte influence de Michael Jackson, c'est une très forte influence de Fela Nicolapokuti, c'est une très forte influence de Bob Marley, et donc de plein de genres musicaux différents, mais qui appartiennent à cette famille des musiques africaines, afro-américaines.
John Pallet, donc l'année 2006 marque le début de votre engagement pour l'écologie. Quelques années plus tard, donc, parce que vous réfléchissez à ce qui ne va pas, à ce qui manque à Greenpeace d'une certaine manière, à ce que vous voulez de plus, en 2013, vous mettez en œuvre vos idées autour de la non-violence, de la désobéissance civile, et vous créez une première association qui s'appelle Alternatiba. Puis en 2015, l'année de la COP21, vous fondez encore une autre association qui s'appelle ANV, pour dire Action Non Violente COP21. Et l'idée de ANV COP21, c'est justement d'organiser des actions non violentes pendant la COP21. Et une des actions fondatrices de cette association, donc, que vous avez fondée, c'était à Pau. 4 mois justement après la COP21, en avril 2016, durant un sommet pétrolier. C'est comme ça qu'on l'appelait, le sommet pétrolier ?
Oui. C'était un sommet du pétrole auquel étaient conviés les plus grandes multinationales pétrolières du monde.
Ouais.
Shell, Exxon, Total, BP. Et dont l'objectif était de discuter, de mutualiser des techniques pour voir comment on pouvait continuer d'extraire toujours plus de pétrole, notamment en mer profonde et en mer très profonde. Alors que parfois, avec la fluctuation du prix du pétrole, il y avait certaines techniques qui devenaient pas rentables. Pour nous, apparaissait l'énorme contradiction entre ce que la communauté internationale avait dit à la COP21, c'est-à-dire que le dérèglement climatique est une urgence vitale et demande des changements drastiques extrêmement rapides. Et on en déduit facilement qu'il faut absolument sortir des énergies fossiles, puisque le problème, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que 4 mois après, seulement 4 mois après...
La COP21.
Voilà. Dans le même pays qui accueillait la COP21, on accueille un sommet du pétrole où les multinationales les plus puissantes du monde vont faire exactement le contraire.
Derrière les climate killers, go home, go home. Dehors, dehors les serial killers du climat. Dehors, dehors les serial killers du climat. Dehors, dehors les serial killers du climat.
John Pallet, à Pau, vous avez poussé avec votre association ANV, donc Action Non Violente COP21, vous avez poussé l'idée de la non-violence jusqu'à sa limite. C'est pour ça que c'est une action fondatrice pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'a été cette limite de la non-violence ?
Elle était, pour moi, c'est une action qui est parfaitement non-violente, mais qui peut surprendre parce qu'elle est très confrontative,
ouais.
Et y compris physiquement. C'est une action qu'on avait annoncée à l'avance. C'est-à-dire que publiquement, on avait annoncé qu'on viendrait bloquer ce sommet du pétrole qui devait durer 3 jours de manière non violente et déterminée. Les deux étaient annoncés clairement, hein, non violente et déterminée. Mais bien entendu, comme on l'annonçait publiquement, on était attendu. Donc, il y avait.
Par des CRS, par contre.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des barrières de sécurité installées tout autour du palais des congrès qui accueillait ce sommet et des CRS. Mais nous, on savait aussi qu'on était attendu. Donc la technique qu'on a choisie, c'est de franchir les barrières, de renverser les barrières et de traverser les lignes de policiers. Ce qui est quelque chose de très délicat quand on veut rester dans une action non violente, parce qu'en général, on évite le contact physique. Parce que ça, c'est un point qui peut ensuite très vite dégénérer. Surtout par rapport aux forces de l'ordre qui sont plutôt formées à l'affrontement physique. Alors, pour rester dans une ligne qui nous permettait de maîtriser le déroulement non violent de l'action, on s'est équipé de boucliers en mousse et dont on pouvait voir qu'ils étaient en mousse. Hein, on a découpé dans des carrés de matelas des boucliers et on a approché du palais des congrès en différentes lignes. Un peu à la romaine, on était en bloc, avec un pas cadencé, en scandant des slogans de manière très forte.
1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. La police doucement, nous sommes là pour vos enfants. C'était ouais. Ça vos slogans?
Alors quand on arrive, c'est plutôt 1, 2, 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et avec nos boucliers en mousse et on renverse les barrières et on repousse les policiers. Donc ça déclenche immédiatement une phase de répression physique où on se prend des coups de matraque, des gaz lacrymogènes, mais on arrive à passer et on arrive à se masser en plusieurs groupes devant les différentes entrées du palais des congrès pour empêcher les congressistes de rentrer. Alors, c'est plutôt à ce moment-là qu'on va dire la police doucement, on fait ça pour vos enfants, pour qu'ils changent de mode opératoire. C'est-à-dire à partir du moment où nous on est immobile, ils doivent s'arrêter de nous frapper. Mais certains le font très vite, d'autres mettent plus de temps. Mais c'est là où pour moi c'est une action non violente réussie, c'est que on arrive à un stade où la police arrête de nous frapper. La situation se stabilise et où le calme revient. Mais le blocage est effectif et où on peut ouvrir des espaces où on dialogue avec les policiers et où on dialogue avec tous les congressistes qui sont bloqués.
Donc les représentants des grands groupes pétroliers, vous expliquez, vous leur parlez.
Oui, en fait les congressistes tournent un petit peu autour du palais des congrès pour voir par où ils peuvent rentrer. Et donc les activistes, tout en les empêchant de passer, leur expliquent les motivations de l'action et leur demandent comment se fait-il que vous puissiez avoir de tels objectifs juste après la COP21. Parce qu'il n'y a aucune explication satisfaisante. Et d'ailleurs, on a des discussions très intéressantes avec les pétroliers parce que, effectivement, il y a un impensé, ils ne savent pas quoi nous répondre. Et d'ailleurs, au fil des trois jours, il y a même certains pétroliers qui vont manifester leur soutien à notre action. Oui, il y a quelqu'un qui, par exemple, dit. Il s'assoit dans l'herbe avec nous devant le blocage, il discute avec nous puis il nous dit demain je démissionne. Un autre qui est venu nous remettre des documents en nous disant que on n'imaginait même pas ce qui était dans les tuyaux et des informations sur certains projets, des informations internes, une sorte de lanceur d'alerte en fait.
Moi, pour bien commencer la journée, j'occupe une agence de la BNP. Tu te rappelles peut-être qu'entre 2015 et 2016, un paquet de gens sont rentrés dans des agences de la BNP partout en France pour réquisitionner leurs chaises. Alors l'idée, c'était pas de se meubler un bureau gratos, mais bien de faire une action de désobéissance civile non violente avec un message clair. On vous rendra les chaises quand vous rendrez l'argent que vous planquez dans les paradis fiscaux. Eh ouais ! Parce que c'est 60 à 80 milliards d'euros qui manquent à l'impôt, et autant dire que ça, on en a besoin pour la transition écologique et sociale.
Nous sommes tous décrocheurs de chaises.
Alors John Palais, vous êtes fait connaître et remarquer aussi par ces actions de fauchage de chaises dans les banques. L'idée vous vient au départ pour dénoncer l'évasion fiscale et tout cet argent qui n'est pas investi dans la transition écologique. C'est ça l'idée de départ. Et là, ça marche aussi, les gens viennent vous voir, les gens comprennent ce que vous dites, vous volez les chaises et vous expliquez ce que vous êtes en train de faire, le dialogue fonctionne ?
Oui, d'une autre manière, parce que dans les actions de réquisition citoyenne de chaises, c'est des actions très très rapides, où on entre dans les banques de manière tout à fait calme, et on sort avec les chaises, mais pour le personnel de la banque, il y a plutôt un moment de stupéfaction et d'incompréhension et une sorte de tétanie où ils comprennent pas ce qui se passe et qui font qu'ils nous laissent sortir avec les chaises. Mais effectivement, il va y avoir petit à petit, on va sentir de plus en plus un malaise qui existe dans ce milieu des banques vis-à-vis de ce sujet de l'évasion fiscale. D'autant plus que les banques dans lesquelles on entre pour prendre les chaises, qui sont des banques qui organisent le système de l'évasion fiscale, mais les agences dans lesquelles on rentre, c'est les employés qui travaillent là, c'est pas leur métier d'organiser l'évasion fiscale. Donc bien sûr, on s'attaque à l'enseigne. Et dans un climat où il y a beaucoup de scandales sur l'évasion fiscale, en fait, beaucoup de ces personnes sont très mal à l'aise.
Et se lèvent et vous donnent leur chaise avec... facilement.
Non, parce que eux, ils ont un conflit d'intérêt à ce moment-là, ouais, qu'ils peuvent pas résoudre en 2-3 minutes. Donc, ceux qui réagissent, et c'est plutôt de nous empêcher de prendre les chaises. Mais c'est vrai que c'est arrivé plutôt vers une fois que ce mode opératoire était très installé. Je me rappelle d'une des réquisitions de chaises où on est entré et il y avait une hôtesse d'accueil au milieu du hall, en nous voyant, qui s'est levée avec un grand sourire et qui a dit « Ah, les faucheurs de chaises, je me demandais si vous viendriez dans notre agence ». C'était une action de désobéissance civile qui jouait à la fois sur l'humour, parce qu'il y a le caractère complètement anodin, la chaise c'est un objet auquel on prête pas une valeur importante en soi, mais il y avait ce parallèle qui était fait, on volait des chaises en plein jour à visage découvert, en l'assumant, en le publiant sur les réseaux sociaux, pour dénoncer le fait que ces banques nous volaient l'argent qui devrait servir au service public, selon nous, à la transition écologique, etc. Et donc, nous-mêmes, en faisant ce vol, mais que nous on revendiquait comme réquisition citoyenne, évidemment, ça pointait du doigt l'autre vol, qui était plus difficile à décrire, qu'on peut pas prendre en photo. Et alors que notre action, on pouvait la prendre en photo. Et ça a servi à ça.
Qu'est-ce qui se passe là, du coup ?
Alors, qu'est-ce qui se passe ? On est donc dans cette salle de mariage de la mairie du premier arrondissement et nous apprêtons à l'élection de novembre 2021 à décrocher le portrait d'Emmanuel Macron, comme nous l'avons déjà fait depuis 3 semaines maintenant. Ce sera il y a déjà eu 16 réquisitions dans toute la France et on s'apprête à en décrocher un nouveau pour justement dénoncer le vide de la politique écologique et sociale d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on peut regarder le tableau qui s'en va doucement.
John Palais, c'est un extrait d'une vidéo amateur. Alors ça, c'est une autre de vos actions hein, de ANV COP21, c'est de décrocher ces portraits d'Emmanuel Macron, toujours pour pointer du doigt l'absence de politique en faveur de la transition écologique. Vous étiez, je crois, cette semaine... au tribunal, vous êtes passé au tribunal pour ça. Vous avez été jugé pour ces vols de portraits de Macron.
Je reviens là. Donc hier, j'étais au tribunal à Bourg-en-Bresse. J'étais pas moi prévenu, mais je venais en soutien à d'autres activistes d'ANV COP21 qui étaient prévenus. Il y a 36 personnes qui sont poursuivies en justice
pour vol en réunion et par ruse.
À Bourg-en-Bresse, ils ont rajouté par ruse. En général, c'est plutôt par vol en réunion. Il y a 10 procès en tout qui sont annoncés. À mon avis, il y en aura plus.
De faucheurs de portraits de Macron ?
Oui. Il y en aura plus parce que il y aura encore plus de procès, parce qu'il y aura encore plus d'actions. Le même jour où se tenait le procès à Bourg-en-Bresse, il y a 14 nouveaux portraits qui ont été décrochés dans les mairies. Donc on voit que malgré la répression, qui est très importante par rapport à cette campagne, ça suscite chez les personnes qui sont conscientes de l'urgence climatique l'envie ou le sentiment de nécessité d'agir et de continuer. On décroche les portraits de Macron parce que Macron décroche des objectifs de l'accord de Paris, des objectifs qui sont censés... engager la France. La France s'est engagée à mener des politiques avec le reste de la communauté internationale pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou maximum 2 degrés. Et c'est pas ce qu'on est en train de faire. Et on cherche des manières de protester, d'alerter la population, de manifester notre refus, notre opposition par rapport à cette politique de manière radicale, de manière déterminée, tout en restant non-violent. Et c'est là que ça nous conduit à faire une action qui est tout à fait symbolique dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que le préjudice matériel est complètement dérisoire. Un portrait de Macron, ça coûte 8,70 € sur la boutique de l'Élysée. Ça n'empêche pas le fonctionnement de la mairie, ça n'empêche le fonctionnement d'aucune institution. Donc c'est symbolique de ce point de vue-là. Et en même temps, c'est très fortement symbolique parce que c'est le portrait présidentiel. Et dans notre République, qui est très centrée autour de la personne du président de la République, il y a quelque chose d'un peu sacrilège dans cette action, d'un peu choquant. Et c'est ce qu'on recherche parce que on estime que la population n'a pas pris la mesure de la gravité de ce qui est en train de se passer.
Do escuro, escolho.
Às vezes sou um pouco atravessado. A minha voz urgente te dizendo, que eu já não tenho tanto tempo assim. E o que sobrou do tempo pra mim? Eu penso em você. A cor do sonho. Vem amor, que a vida nos convida pro passeio. Sigo tua dança, calmo passo. Adapto-me ao nosso andamento. Meu corpo me encontra no espaço. Procuro aproveitar esse momento. De noite no cinema do meu quarto. Ainda estou no seu apartamento. Os fatos se alinham no acaso. Os astros têm lugar no firmamento. Eu penso em você e em nós dois. A flor no teu cabelo, a cor do sonho. Vem amor, que a vida nos convida pro passeio. Só nós dois, nas horas generosas do sossego.
Une journée particulière. Zoé Varié sur France Inter.
John Palais, en 2006, sur proposition de la ministre de la Justice Christiane Taubira, le Parlement adopte une loi qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme un crime contre l'humanité. En 2006 aussi, pour la première fois, une enquête épidémiologique française conclut que les essais nucléaires français, réalisés en Polynésie entre 1969 et 1996, ont entraîné une augmentation des cancers de la thyroïde parmi la population, sans compter les militaires français dont l'armée refuse d'ouvrir les dossiers. Ça, vous êtes là-dessus aussi, vous vous battez pour ça, vous êtes engagé sur ce dossier-là, qu'on appelle les irradiés de la République aussi.
C'est quelque chose qui, tous ces sujets me touchent. Moi, le point commun que je vois avec la lutte qu'on mène actuellement contre le dérèglement climatique, c'est la force du déni. Le temps qu'il faut pour reconnaître la puissance destructrice de certaines activités. Et aujourd'hui, on vit une époque comme ça.
Qui pratique le déni. On est dans le déni.
Oui, et on est en train de préparer un immense crime contre l'humanité. Quand on lit les rapports scientifiques, on voit bien que le dérèglement du climat, c'est pas simplement des anomalies météorologiques. Ça va bouleverser les conditions de vie sur Terre, au point que des zones entières risquent de devenir complètement inhabitables, au point que des régions entières vont voir s'effondrer leur rendement agricole, des régions entières n'auront plus accès à l'eau potable, des millions de personnes vont être obligées de se déplacer, d'être les victimes de migrations forcées. Ça va accroître les tensions autour des ressources qui vont diminuer. Et en fait, on voit bien que tout se tient, c'est-à-dire que c'est pas uniquement un problème écologique, ça devient ensuite un problème de paix, un problème de démocratie, un problème de justice, c'est-à-dire qu'on est en train de construire un monde qui va devenir si difficilement vivable que ça devient complètement irréaliste d'imaginer qu'on puisse maintenir des conditions de vie civilisées.
Alors en 2006, plus léger, Philippe Catherine nous faisait danser sur Louxor.
J'adore. Regardez danser les gens. Regardez danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Les instituts.
John Palais, c'est votre genre de beauté. Vous dansez quand même un peu?
Ah non, très peu, moi.
Vous dansez pas?
Non, j'écoute beaucoup de musique, j'en joue, mais je danse pas beaucoup.
Vous l'aimez bien, Philippe Catherine?
Oui, c'est très drôle.
C'est drôle, hein? C'est drôle et c'est bien. On continue sur un événement de l'année 2006, un événement qui va vous intéresser, John Palais. C'était le 11 mars. Slobodan Milošević est retrouvé mort dans sa cellule du Tribunal pénal international.
Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, la mort de Slobodan Milošević, l'ancien président yougoslave, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il comparaissait depuis plus de 4 ans devant le Tribunal pénal international de La Haye. C'est là, dans une cellule du TPI, qu'il a été retrouvé mort ce matin.
Vukovar, Sarajevo, Srebrenica, la Krajina, le Kosovo. De Slobodan Milošević, l'histoire retiendra ses images de guerre, de massacres, de camps de concentration et d'exode, les 200 000 morts, 800 000 réfugiés et 3 millions de personnes déplacées dont il est directement ou indirectement responsable.
John Palais, vous vous êtes beaucoup intéressé à la façon dont un groupe, un mouvement pacifiste, Otpor, a poussé Milošević à la démission, à quitter le pouvoir. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez étudié ce mouvement.
Oui, parce que c'est un mouvement non-violent, qui était un groupe d'étudiants qui s'appelle Otpor, en serbe ça veut dire résistance, et à la fin des années 90 qui a joué un rôle de déclencheur important dans ce qui va devenir au fil des mois un grand mouvement populaire qui s'oppose à Milošević, qui est en train de truquer les élections pour rester au pouvoir. Ils vont même pas le pousser à la démission, hein, c'est un des commandants de l'armée qui va venir l'arrêter. Et c'est de cette manière-là qu'il se retrouve au Tribunal pénal international. C'est un mouvement qui est intéressant parce que ensuite ils ont théorisé leur pratique de la lutte non violente. Et eux-mêmes avaient été formés par un des théoriciens de la lutte non violente qui s'appelle Gene Sharp. Il y en a d'autres hein, comme Jean-Marie Muller, mais ils vont le retraduire en manuel très simple, comme une recette de cuisine. Et donc ça rend beaucoup de choses limpides sur la manière de s'organiser pour construire petit à petit un mouvement populaire de masse non violent et déterminé.
C'est ça que vous allez enseigner pendant votre camp climat qui aura lieu cet été du 31 juillet au 11 août en Alsace. C'est ce que vous faites de la formation en quelque sorte, John Palais, à la non-violence?
Oui, le camp climat, c'est vraiment un lieu de formation et de convivialité et de fête, mais essentiellement de formation, où on fait des formations sur l'action non violente, sur la stratégie, sur la communication, sur la logistique.
Sur la désobéissance civile.
Sur la désobéissance civile, sur
avec tous. Des travaux pratiques, vraiment,
oui.
Vous êtes face à tant de CRS, comment vous y prenez?
C'est ça, c'est très axé sur la pratique, avec des mises en situation, mais... C'est un cas extrême les CRS parce que ils ont c'est pas eux qui décident, ils ont des ordres et ils doivent les appliquer et ils ont un devoir de réserve qui font que même quand vous arrivez à parler avec eux ils sont censés ne pas vous dire ce qu'ils pensent, mais en réalité beaucoup nous disent ce qu'ils pensent ou arrivent à nous le dire en filigrane. Pour moi c'est très important qu'on ne laisse pas s'installer une opposition entre nous et les forces de l'ordre. Parce que, et c'est là où je disais que Martin Luther King est une très forte influence pour nous, la solution au dérèglement climatique, c'est une métamorphose complète, très profonde, radicale de notre mode de vie, et ça doit se faire avec une partie très significative de la population. Donc c'est pour ça qu'on cherche à être audible et qu'on cherche à rassembler un maximum de gens. Et y compris les forces de l'ordre, qui sont... au-delà de leurs uniformes et des ordres qu'ils reçoivent, qui sont aussi des gens qui vivent sur la même planète que nous, qui se posent des questions, qui ont des familles, qui ont des amis, et à qui, pour moi, il est jamais inutile de parler. Bien sûr, à l'instant T, quand ils ont des ordres, ça va pas infléchir la situation. Mais un jour, les forces de l'ordre, comme beaucoup d'autres corps de métier, vont prendre part à cette bataille climatique. Et le jour où des forces de l'ordre refuseront d'exécuter des ordres, parce que ils verront que l'intérêt général, que la sécurité des gens dépend de la limitation du dérèglement climatique et que les gens qu'on leur demande de protéger sont les gens qui détruisent la planète, quand ils le feront, ce sera grâce à toutes les actions qu'on aura menées auparavant où, tout en étant dans une confrontation au système, eux, on les a respectés et eux, on a essayé de leur parler.
Merci John Palais. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Les liens de vos deux mouvements Alternatiba et ANV Action Non Violente COP21 sont sur le site de l'émission. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Juliette Delperrou. N'oubliez pas que vous pouvez podcaster et surtout réécouter cette émission sur le site de France Inter. À la semaine prochaine.